Dieu vous bénisse. Merci de nous accueillir dans votre belle région de Arles. C'est une joie de pouvoir partager avec vous ces instants. J'avoue que j'ai été pris par surprise. Au téléphone, il me dit « Tonton, excusez-moi, c'est comme ça, hein, tonton, tu viens, t'inquiète pas, tu prêcheras que dimanche. » Là, je dis « C'est bien, je suis en vacances. Hein, de temps en temps, c'est bien d'avoir des vacances, surtout qu'on n'en avait pas. Quoique maintenant, je suis en vacances, je suis en vacances professionnelles puisque je suis en retraite. Hein. Et puis quand Emmanuel m'a dit « Tu veux apporter la parole ce soir ?» Je dis « Non, écoute, apporte-la. » Et puis après, je ne sais pas, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur que je veux partager avec vous. Et honnêtement, on a un Dieu tellement formidable. On a un Dieu tellement bon. Avant de partager la parole, juste un petit témoignage. Je l'ai eu lorsque j'étais assis, là, le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Je veux juste vous raconter un témoignage. Je ne suis pas l'acteur principal de ce témoignage, mais c'est mon père. Mon père était un homme de foi. Le papy était un homme de foi. Et lorsque j'ai eu 6 mois, à 6 mois, j'ai attrapé une maladie au cerveau. J'ai été emmené d'urgence à l'hôpital et les médecins avaient décrété que 2 seraient les conditions. Soit je meurs, soit je reste, mais avec des séquelles graves. Mon père était un homme de foi. Je pourrais vous raconter des témoignages de papy, de mon père. Vous direz, c'est pas possible. Et pourtant, Seigneur, agit dans la foi simple. Agit dans la foi vraie. Mon père est arrivé à l'hôpital, on lui annonce cette nouvelle. Il se met en prière. Dans l'hôpital, il ne s'est pas posé la question à savoir si on le regardait ou pas. C'est-à-dire, parfois, on a honte. Hein. On va prier en silence. On est au restaurant, on ne fait pas trop de bruit. Hein. Pas qu'on nous entende trop. Non, lui, il ne s'est pas posé la question. Il s'est mis à genoux, il a prié. Il a prié. Il a prié le Seigneur. Il dit, Seigneur, c'est ça sa prière. Seigneur, j'ai foi. Tu as agi dans ma vie plusieurs fois. Mon fils, si tu dois le prendre, j'accepte les conditions. J'accepte que tu le prennes. Je suis prêt. Mais si tu dois me le laisser, tout ce que les médecins ont dit n'arrivera pas. Et je veux un signe, Seigneur. Je m'approche de lui et il ouvre les yeux. Après cette prière, mon père se lève. C'était un hôpital de religieuses à l'époque. Il y avait des bonnes sœurs. Il s'approche de moi et par la grâce de Dieu, je lui ouvre 3 fois les yeux. 3 fois les yeux. Mon père se tourne vers le médecin, dit « Monsieur, mon fils est guéri ». Et le médecin lui a dit « Monsieur, je pense que la douleur vous rend un petit peu au-delà ». Il dit « Non, non, mon fils est guéri. Vous faites tous vos examens, faites tout ce que vous avez à faire. Moi, je ne me mets pas contre votre médecine, mais moi, mon fils est guéri parce que Dieu l'a guéri ». Le médecin a fait les examens et il ne comprenait plus rien. Et on m'appelle le miraculé. Parce que Dieu est bon. Amen. Parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Et Dieu n'a pas changé. Le Dieu que mon père servait, c'est le Dieu que nous voulons servir et que nous servons. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous ne manquons pas de sa grâce. Et aujourd'hui, je suis là. Je ne pense pas avoir de séquelles dans le cerveau. Peut-être que certains diront que je suis fou. Oui, je suis fou du Seigneur. Hein? Mais... Alléluia. Je peux entendre un amen ? Alléluia. Merci. Ce soir, je voudrais partager avec vous une question. À combien estimons-nous notre vie ? Combien d'argent tu peux donner pour ta vie ? Si aujourd'hui on te dirait « Donne-moi de l'argent, je te donne la vie pour l'éternité », qu'est-ce que tu donnerais ? Bah, tout, hein. Parce que de toute façon, pour l'éternité, tu as le temps de récupérer, n'est-ce pas ? Sauf que c'est pas comme ça. Sauf que c'est pas comme ça. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 16, pour ceux qui ont la Bible, pour ceux qui écoutent, que Dieu vous bénisse. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'ils me suivent. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Que servirait à l'homme de gagner tout? Un vieil homme riche a dit un jour, « J'ai tout, je possède tout. Je peux me permettre de tout acheter. Mais quel vide est dans mon cœur. » Une star a dit, « J'ai beau arriver au sommet et j'y suis au sommet. Mais après, c'est le néant. » Il est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans un drôle de monde, n'est-ce pas? On vit dans un monde où la vie n'a pas tellement d'importance. On n'hésite pas à envoyer des bombes pour tuer les gens. Et pourtant, ça fait des morts. Ça prend des vies. À combien estimes-tu ta vie? À combien estimes-tu ta vie? Certains croient que la vie leur appartient. Surtout lorsqu'on est jeune. Surtout lorsqu'on a un âge de l'adolescence. Ouais, mais j'ai le temps, hé. Oh, j'ai le temps, copain, j'ai le temps. Yo, j'ai le temps. Ils croient que leur vie leur appartient. Ils peuvent en disposer comme ils veulent. Un jeune homme, un jour, passe devant une église qui avait les fenêtres ouvertes en moto. Et le prédicateur leur parle et leur dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et il prêchait sur la vérité. Et ce jeune homme dit, moi, je ne suis pas un vieillard. J'ai le temps. Sauf qu'il est parti avec sa moto. Premier croisement, un camion passe et il perd la vie. À combien estimes-tu ta vie? Personne ne peut dire que demain lui appartient. Personne ne peut dire qu'il peut disposer de sa vie comme il veut. Personne n'est maître du temps. On a l'émission qui dit le maître du temps, mais personne n'est maître du temps. Il y a des enfants à peine nés qui meurent, et il y a des vieillards arrivés au terme de leur vie qui meurent. Personne n'est maître de son temps. Et pourtant, nous avons tendance à tout évaluer, tout estimer, tout préparer. Vous savez, on est des personnes organisées. Dans notre tête, et j'espère que c'est comme ça, on sait que le matin, on se lève, on va prendre le petit déjeuner, après on va prendre sa douche ou son bain, après on va aller au travail, on revient du travail. Tout est préparé, tout est organisé, et on sait, tout est évalué. À combien estimes-tu ta vie? Certains objets, certains bâtiments dans le monde sont estimés à des valeurs inestimables. Et pourtant, il s'écroule au moindre tremblement de terre. Le Titanic n'aurait jamais dû sombrer, n'est-ce pas? Et pourtant, rappelez-vous ce qu'il a dit, même Dieu ne pourra pas l'atteindre. Et pourtant, il a sombré. Certains veulent croquer la vie à pleines dents. Lorsqu'on leur parle, ils vous disent « on va manger la vie par les deux bouts ». Certains pensent qu'ils ont bien vécu. J'ai bien vécu ma vie. Ah, ma vie a bien vécu. Mais je peux vous dire que ni l'un ni l'autre n'est heureux. Ni l'un ni l'autre a la certitude de son demain. Alors le monde vit dans l'incertitude. Parfois il vit dans la déception et parfois dans l'angoisse. L'angoisse du lendemain. Demandez à ceux qui sont en Ukraine. Demandez-leur. Demain, qu'est-ce qui va arriver? Ben, je ne sais pas, quelle bombe va me tomber sur la tête. On prépare rien. Nous, on a des frères en Ukraine, vous le savez. Et le frère me dit, tu sais, mon frère, notre vie est dans les mains de Dieu. Demain, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que le Seigneur nous garde. Jusqu'à quand il décide de nous garder. Salomon le sage. Excusez-moi, il faut que j'accélère. Salomon le sage, qui pouvait tout s'offrir. Écoutez bien ce qu'il dit. Ecclésiaste 2. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne l'ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité. Et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Combien aujourd'hui n'ont pas la vraie valeur de la vie. Certains donnent au travail une importance si grande qu'ils en oublient la famille, le couple, les enfants, leur âme et leur vie spirituelle. Et si vous voulez voir le résultat, regardez dehors. J'ai un ami professionnel qui me disait toujours, tu sais, je ne sais pas si la vie vaut la peine d'être vécue. Je suis seul, je n'ai jamais trouvé quelqu'un. Je lui ai présenté le Seigneur, mais il n'a rien voulu savoir. Combien on peut tout offrir, mais ne rien avoir. On peut tout offrir, mais ne rien avoir. La vie, à combien l'estimes-tu ? Alors Jésus pose la question. Jésus nous pose la question ce soir. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert s'il perd sa vie ? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ? Jésus ce soir nous pose la question, me pose la question, te pose la question. Je n'ai pas la prétention ce soir de vous apporter quelque chose. Je veux que le Saint-Esprit parle à notre cœur. Par moi-même, j'en serais incapable. Mais le Saint-Esprit, ce soir, le Seigneur pose la question. Et que peut donner l'homme pour acheter sa vie? Vous savez ce que Jésus fait là? Il recentre sur la réalité. Nous, on essaye d'élargir notre vision et lui la recentre sur l'essentiel. Jésus veut nous amener à voir l'essentiel, à voir quelle est la valeur de notre vie. Il veut nous amener à une réflexion intérieure, à une réflexion sur nous-mêmes, à un raisonnement qui puisse nous amener à ouvrir nos yeux et à estimer la valeur que nous donnons à notre vie. Le psalmiste disait, qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Oui, il a estimé sa valeur. Qu'est-ce que l'homme ? Lorsqu'on regarde l'homme par rapport à l'univers, qu'est-ce que l'homme ? Lorsqu'on regarde l'homme par rapport à la création, qu'est-ce que l'homme ? Et pourtant, si nous ne donnons pas une vraie valeur à notre vie, Dieu lui a donné. Dieu lui donne une valeur à notre vie. Et il veut nous amener à cette réflexion intérieure. C'est le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ne pensez pas que vous êtes capable de convaincre qui que ce soit. Nous, on est des porteurs de la parole de l'Évangile, des porteurs de la parole de Dieu, des porteurs de la parole de vérité. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Qu'est-ce que l'homme ? Que tu en prennes soin. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à trouver la réponse à cette question. Et Jésus va le faire et va donner la réponse avec intelligence. La première chose qu'il va montrer, le Seigneur, c'est le chemin. Il y a un chemin à parcourir, un chemin à trouver, un chemin que Christ nous a ouvert par la croix au calvaire. Un chemin. Jésus dira au verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il nous propose un chemin. Si quelqu'un veut venir, si quelqu'un veut marcher jusqu'à moi, si quelqu'un veut s'approcher de moi, c'est le chemin qui nous est proposé. Mais vous savez, ce chemin, il n'est pas obligatoire. Dieu ne vient pas dire, excusez-moi, et toi, toi viens avec moi. Non, 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 non. J'ai du mal, hein, il est un peu costaud. Hein. Non, non, Dieu a mis si. Le si est important, le si conditionnel. Le si nous amène à réfléchir. Le si, c'est la réflexion intérieure. Le si, c'est une prise de conscience de l'être intérieur, de se dire, j'ai besoin de changer de vie. J'ai besoin de voir les choses autrement. J'ai besoin de recevoir autre chose. C'est un choix personnel, individuel. Un choix que nous devons faire aujourd'hui sur cette terre. N'attendons pas demain. Ne disons pas demain quand je serai devant le Seigneur. Je plaidoirai avec lui. Je suis un bon avocat. J'ai une bonne dialectique. Je palabre bien. Donc je saurai convaincre le Seigneur. Non, non. Regardez ce que dit Ecclésiaste. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Wow. Donc si je suis un bon avocat ici sur Terre, là-haut, je ne sais pas ce que je suis. Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, la position que nous devons prendre avec le Seigneur, elle est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il nous faut saisir l'opportunité qui nous est donnée. Aujourd'hui, cette opportunité nous est offerte. Jésus nous propose un chemin différent de celui que le monde nous offre, différent de celui que nous pouvons avoir aujourd'hui. Un chemin de communion, de relation, de vie avec Dieu. Un chemin qui nous permet d'entrer dans un univers et de trouver une raison d'exister. La raison d'être. Il y a une chanson comme ça qui parle de raison d'être, n'est-ce pas ? Mais la raison d'être, ce que je suis. La raison d'être, ce que je suis. Vous savez, la Bible est claire là-dessus. Tu es esclave de celui que tu sers. Et la Bible nous dit que si nous servons le Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. Et l'Esprit Saint atteste à notre esprit que nous sommes. Et si l'Esprit Saint atteste que notre esprit, que notre corps, est, que nous sommes enfants de Dieu par son esprit en nous, alors, on réalise la valeur que l'on a aux yeux de Dieu. Du coup, ce n'est plus nous qui estimons notre vie, mais c'est Dieu qui va l'estimer. C'est Dieu qui estime et qui donne de la valeur à ta vie. C'est Dieu qui va t'offrir le chemin. Il te l'offre, il faut le prendre. Il faut l'accepter, il faut marcher. Il manifeste toute la valeur. Cette valeur se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a qu'un seul berger. Bon berger. En Christ, nous pouvons réaliser tout l'amour de Dieu, tout l'amour du Père. Alors oui, si tu estimes que tu n'as pas de valeur, et c'est ce que le monde te dit, tu ne vaux rien, sache que Jésus-Dieu a donné son Fils sur la croix. Regarde, Dieu te relève. Dieu te ramène, alléluia, dans un autre esprit. Dieu te donne la valeur que tu as à ses yeux. Il te le montre, mais il nous faut nous saisir de marcher avec lui. Il nous faut venir à lui. Quiconque croit en lui, c'est ce que dit la parole, quiconque croit en lui ne périra point ou ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À combien estimes-tu ta vie ? Comment venir au Seigneur ? Comment venir au Seigneur ? Est-ce que je peux venir, moi, avec mes habits, mon... Seigneur, ne demande pas à ce que tu viennes autrement que tel que tu es. Nous avons parlé tout à l'heure de sincérité. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir. Personne n'est là pour faire plaisir. Nous sommes venus avec sincérité devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Je veux vraiment réaliser tout l'amour. Parce qu'en réalisant la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, nous réalisons tout l'amour de Dieu pour nous. Cet amour qu'il a porté pour nous à la croix. À la croix. Alors il nous invite à nous approcher de lui. Il nous invite à nous approcher. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 6. Reconnaître aujourd'hui, Seigneur, je veux donner de la valeur à ma vie. Je ne veux pas l'estimer avec les valeurs de ce monde, je veux les estimer avec ta parole, ton Fils. Pouvoir arriver au point de l'apôtre Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie est en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, car par amour pour moi, il s'est livré à la mort à ma place. » Waouh ! Moi, ma vie, je l'avais estimée à la mort. Et Jésus l'a estimée à la vie éternelle. Alors il a pris la mort pour lui sur la croix. Il a pris la mort pour lui pour que nous puissions recevoir la vie en abondance. En ayant la vie de Dieu, en ayant l'amour de Dieu, on a la joie et la paix du Seigneur. Tu es en paix ce matin. J'ai tellement l'habitude de prêcher le matin, ce soir. Alors oui. S'approcher de Dieu, c'est l'autoriser à prendre sa place dans nos cœurs. Vous savez, j'ai dit toujours cet exemple dans mon église. On prend les clés de notre maison et on dit, tiens, les voilà, Seigneur, je te les donne. Lui, il a un beau trousseau de clés, lui. Voilà, Seigneur, je te les donne. Vous voyez, il y en a plein. Et là, dans tout ce qu'il y a plein là, c'est celle du cœur, celle de la pensée, celle de l'âme, celle des pas, celle des yeux, celle des oreilles. Je t'invite à prendre place dans mon cœur, dans ma vie. Je te donne la première place. Chercher d'abord le royaume des cieux. C'est donner la place à Dieu. C'est accepter de renoncer peut-être à ses pensées, peut-être à ses idées, peut-être à sa vision des choses. Et à dire, Seigneur, montre-moi, éclaire-moi. Éclaire-moi par ton Esprit Saint. Illumine-moi par ton Esprit Saint pour que je voie la vraie valeur. La vraie valeur. Tu es une créature formidable. Parce que Dieu t'a créé. Mais tu es une créature, tu deviens une créature formidable. Parce que tu es enfant de Dieu. Et tu as une espérance dans ta vie. Il nous faut nous approcher. Prendre sa croix, c'est servir le Seigneur. Prendre sa croix, c'est marcher avec Dieu. Prendre sa croix, c'est accepter, parfois dans notre vie chrétienne, de passer par des moments difficiles, mais pas seul, avec le Seigneur. Prendre sa croix, c'est accepter de marcher côte à côte avec Jésus. Prendre sa croix, c'est en avoir fini avec la vie d'aujourd'hui, c'est tourner la page. Je donne aussi cet exemple, un vrai chrétien, une vraie conversion. Parce qu'il y a des conversions qui sont mitigé, il y a des vraies conversions. La vraie conversion, c'est faire 180 degrés. Changer de route et suivre le Seigneur. Mais cela passe par cette prise de conscience de la valeur du péché. L'homme, par nature, est pécheur. Par nature. T'as beau dire, je suis une brave personne, je n'ai tué personne, je n'ai jamais fait de mal à personne. Je donne aux pauvres, je donne aux œuvres de bienfaisance. C'est très bien. Mais tout ça ne t'achète pas la vie éternelle. Ce qui va t'acheter la vie éternelle, c'est de donner ta vie au Seigneur. Parce que le péché qui règne dans le cœur, voilà ce que dit, car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Waouh, il n'y a plus rien à payer. Donc, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, je n'ai rien à payer et j'ai la vie éternelle. J'ai une espérance. Je reprends. Mais le don gratuit de Dieu accorde, que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Amen. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. C'est cette prise de conscience. Au verset 27, et je voulais aussi toucher ce point-là, et je conclurai après. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il nous parle d'une chose essentielle. Nous avons vu que nous avons un chemin qui nous est ouvert, que le chemin, nous devons l'accepter, que ce chemin va nous donner une vision autre de notre vie, que notre vie prend de la valeur. Mais, chacun un jour devra rendre compte à Dieu. On parle de l'amour de Dieu, et c'est très bien, Dieu aime, Dieu est amour. On ne peut pas nier cette vérité, mais on oublie une chose, c'est que Dieu est justice. Dieu est amour. Et aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Ne refusez pas, ne le rejetez pas aujourd'hui. Mais Jésus nous parle de son retour. Il nous parle de son retour. Jésus revient. Et alors, qu'est-ce que je dirai au Seigneur ? Qu'est-ce que je rendrai au Seigneur ? Mes bonnes œuvres ? J'étais un bon chrétien. J'étais à l'église, Seigneur. J'ai prié, j'ai chanté, j'ai parlé en langue, j'ai prophétisé, j'ai prêché. Je ne vous ai jamais connu. Wow. Il est justice et sainteté. Soyez saints, car je suis saint. Non seulement il nous faut prendre le chemin. Estimer notre vie, ce n'est pas l'estimer simplement au début en se disant « j'accepte Jésus dans mon cœur ». C'est tout au long de ta vie, tout au long de ta vie, qu'il va falloir dire « Seigneur, comment je me trouve là en ce moment ?» Le GPS, j'ai le bon ? Est-ce que j'ai ta parole comme GPS ou est-ce que j'ai mes idées, mes pensées ? Je disais dimanche à l'église, j'entrerai pas dans ce détail-là parce que c'est trop long, mais je vous le dis quand même, aujourd'hui, il y a le New Ecclesial. C'est un nom que j'ai inventé. Il faut bien que j'invente quelque chose. Hein ? C'est la nouvelle manière de penser des églises. La nouvelle manière de proclamer l'évangile. La nouvelle manière. Moi, je crois que la Bible n'a pas changé, qu'elle est restée identique et qu'il nous faut prêcher l'évangile comme il est. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Et la parole de Dieu ne change pas. Ce que la Bible déclare, péché est péché. Et on ne peut pas aujourd'hui l'arrondir, la formuler différemment. J'étais responsable de 20 personnes lorsque je travaillais, il n'y a pas si longtemps que ça, depuis le mois de mai, je suis en retraite, hein, c'est une bonne chose. Hein ? Et on nous disait toujours, vous savez, c'est tout est dans la formulation de dire les choses. Et moi, je ne suis jamais rentré dans ce détail-là. Je ne suis jamais rentré dans ce mode-là. J'ai toujours dit la vérité aux gens, aux personnes. Et j'étais apprécié parce qu'ils me disaient que ce que toi tu dis, c'est jamais deux choses, c'est toujours une. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Une chose importante, Dieu est justice et on ne peut pas tourner les choses. Il nous faut être sur le bon côté de la balance. Je réfléchissais tout à l'heure en passant un message à la balance, vous savez, les balances qu'il y avait avant avec le poids qui se déplace. Nous, plus anciens, on s'en rappelle. Les jeunes, ils ont maintenant l'électronique. Hein ? On mettait le poids au dernier et puis vous pesez tous vos biens, toute votre pensée et la balance restera toujours. Mais quand vous mettez le sang de Jésus-Christ, la balance s'équilibre. Alléluia. Oui, la justice. Nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Lorsque Belshazzar a eu son rêve, cette main qui écrivait, et qui demande la traduction à Daniel, je fais courte histoire, voici l'écriture qui a été tapée, tracée, excusez-moi, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptée, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesée, tu as pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisée, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Comptée, pesée, divisée. Je pourrais paraphraser ce verset. Mais je pense que vous l'avez déjà fait dans votre tête. On peut compter les choses. À la vision de la grâce, si nous la refusons, rien ne peut valoir. Sans l'œuvre de la croix, sans l'œuvre de Jésus-Christ, sans avoir le sang de Jésus qui nous purifie, nous ne pouvons nous présenter devant Dieu saints et justifiés. Alors il faudra leur affronter la justice. Et je te repose la question, et je conclue avec cela. À combien estimes-tu ta vie ? À combien estimes-tu ta vie ? À combien ça coûte de t'en sortir ? Ce soir, Jésus te donne un moyen. Accepte Jésus dans ton cœur. Marche avec Jésus dans ta vie. Fais-le le primat de ta vie. Et ta vie aura de la valeur. Parce que ta vision, parce que ton espérance te ramèneront vers l'éternité où Jésus t'attend. Que Dieu bénisse sa parole.